Vous êtes dans le retour de boulevard. J'espère que vous allez bien malgré la température. Quoique ça commence à être de moins en moins pire. J'ai pas l'impression qu'il va tant pleuvoir que ça. Je regarde en ce moment la météo. On parle d'un 40 % de possibilité d'averse ou d'orage. On est encore en veille d'orage sur Environnement Canada, là, mais le ciel a l'air de se dégager à quelques petits endroits
mais
au loin.
Ça a l'air un peu plus tôt. À Québec, pour vrai, je pense que ça fait quand même un petit bout que ça va moins pire. Tantôt, ce que j'entendais dans les bureaux, c'est que c'est la rive sud qui se faisait poivrer.
C'est-tu le cas? 88-971-1021. La bonne nouvelle, c'est que demain, techniquement, généralement ensoleillé avec 24 degrés, puis c'est le début des vacances de la construction. Fait que si c'est le début de vos vacances, ça va se passer dans le soleil au moins. Il y a tous les jours cet été des collaborateurs qui nous rejoignent, des collaborateurs qui sont là en saison régulière et avec qui c'est un plaisir de continuer de jaser l'été. Antonine Iaccarini.
Bonjour!
Comment vas-tu, chère?
Ça va bien, mais ça va mieux maintenant que le déluge est terminé parce que chez nous, ça a été un peu rock'n'roll.
Ça a failli déborder, tu me disais?
Oui, on a failli avoir un dégât d'eau dans le sous-sol. Honnêtement, on était comme à 30 minutes.
Je pense que c'est mon cauchemar.
Ben moi aussi. Puis j'ai regardé le monde à Montréal la fin de semaine passée, là. Ouais. Puis les images des gens, là, tu vois l'eau qui monte dans ta maison, là.
Puis tu peux rien faire, drôle, là. Tu peux rien faire, il faut juste que pleurer. Tu subisses, hein? Après ça, faut que tu parles avec les assurances, c'est l'enfer.
L'enfer.
On vous souhaite que ce soit pas le cas en passant en ce moment, là. Plusieurs sujets à jaser aujourd'hui. Il y en a un dont on parle déjà depuis quelques jours, les fameuses coupures en éducation. Qu'est-ce qui se passe?
Quelle séquence mauvaise de politique et de communication du côté du gouvernement. On va juste rappeler un peu les faits, okay, chronologie un peu. Mois de juin, on envoie dans les centres de services scolaires du côté du ministère de l'Éducation les règles budgétaires. Ça, c'est la plate de même, là, mais bref, c'est le budget que les gens vont avoir pendant l'année pour commencer à faire leur budget pour l'année prochaine.
Et pour l'automne.
Pour l'automne. C'est un peu bizarre déjà comme processus. Tu dis, bon, il y a le budget au mois de mars-avril, et ensuite, juste avant les vacances, les centres de services scolaires ont confirmation, dans le fond, des deniers qu'ils auront à leur disposition pour faire les choses qu'ils ont à faire.
Mais leurs plans sont déjà pas mal faits à ce moment-là.
Et voilà! Puis souvent, il n'y a pas d'énormes surprises. Et là, surprise, cette année, on coupe. Mais là, on ne coupe pas dans les budgets. Il faut juste préciser, parce qu'il y a une guerre de mots. Et le gouvernement a raison de dire que les budgets augmentent d'année en année. Et là, ce qu'on veut éviter, c'est de trop boster les enveloppes. Sauf que les enveloppes, elles sont toujours bostées d'année en année. Fait que là, à un moment donné, il y a une histoire de planification des budgets là-dedans qui ne fonctionne pas. Probablement que le budget n'est pas suffisant d'année en année. Le gouvernement, lui, de son côté, dit il y a des économies à faire. On peut mieux organiser les choses. Puis d'ailleurs, depuis quelques années, il y a une réorganisation du réseau scolaire. On veut avoir des données comparables d'un centre de service scolaire à l'autre. On veut être capable de faire des économies d'échelle parce que là, chaque centre de service scolaire fonctionnait tout seul. Tout ça, c'est louable, mais dans la façon de fonctionner, d'envoyer comme ça les règles budgétaires juste avant les vacances, bien, ça fait évidemment un tollé.
Mais c'est parce que tu pèles la chenoute dans le cours des centres de services scolaires à deux mois de la rentrée, tu sais.
Bien, c'est ça. Puis comment c'est fait aussi, tu sais, puis on a reçu plein de courriels puis de messages de profs, là. Puis ça aussi, tu sais, ça me fait dire que la guerre de communication était impossible à gagner pour le gouvernement parce que, évidemment, les profs vont dire « Excuse, on coupe déjà les scènes en quatre, là. Il n'y en a pas de gras à couper. » De dire que ben, c'est maintenant qu'on planifie pour l'automne prochain qui on va embaucher, combien d'heures de professionnels on va avoir, par exemple, orthopédagogues et compagnie.
Ben, déjà qu'il en manque aussi, là.
Ben, il en manque. Les listes d'attente sont souvent déjà très, très longues. Et moi-même, cette semaine, j'ai reçu une lettre de mon centre de services scolaires pour l'école primaire de mon enfant. Et il expliquait aux parents qu'on a vraiment fait ce qu'on pouvait. Ils ont révisé le budget ligne par ligne. On ne veut pas couper dans les services, mais malheureusement, ça va avoir des répercussions. Parascolaires, travaux de peinture, achat de livres, de matériel et le calendrier des professionnels qui vont être disponibles pour les enfants en difficulté, notamment.
Et là, hier, Bernard Drinville arrive en sauveur en annonçant de grosses sommes, mais il dit « Vous devrez me prouver » que ça va directement au service aux enfants et rien d'autre.
Exactement. Dans le fond, là, le gouvernement veut que les centres de services scolaires fassent un effort d'optimisation et de couper dans l'administratif sans couper dans les services aux élèves. Le réseau scolaire, évidemment, va dire « c'est impossible ».
Mais c'est parce que c'est difficile en motadine, là.
Écoute, c'est un débat et moi, je pense que l'objectif d'optimisation, on ne doit pas le diaboliser. La manière dont ça s'est passé, c'est déplorable. Sauf que c'est vrai que la bureaucratie dans la vie, ça a comme une tendance à grossir. Il y a des dédoublements des fois. Il y a des manières inefficaces de fonctionner. Moi, je pense qu'il y en a un effort probablement à faire. Mais pourquoi le ministère puis le cabinet du ministre, tout simplement, n'a pas décidé de faire une initiative plus en mode accompagnement? on va faire, par exemple, un Audi ensemble. Mm. Puis le monde, ce serait sûrement déchiré la chemise aussi, puis être insulté, puis tout ça. Mais au moins, il y aurait une prévisibilité. Parce que là, c'était arrivé comme une surprise. Les écoles ont fait des changements. Et là, tout à coup, hier, on remet la pâte à dents dans le tube. Le gouvernement a l'air fou.
Ce qui n'est pas très faisable, généralement. Là.
C'est ça. Imaginez, essayez de rentrer de la pâte à dents dans un tube. Et là, les périodes d'affectation pour les postes qui sont ouverts à l'automne, tout était comme un petit peu réglé. Mm. Donc, ça a brassé beaucoup d'énergie, beaucoup de vent, beaucoup de paperasse dans le réseau scolaire. Le gouvernement a l'air fou. Donc, finalement, c'est une situation perdant-perdant.
Parce que l'annonce hier de revenir en annonçant une enveloppe qui peut atteindre 540 millions, c'est que politique. Là. C'est juste pour calmer le jeu et dire, bon, vous voyez, on vous a entendu, on est allé sur le terrain, on vous a écouté, on annonce ça pour nos... C'est juste politique, là.
Oui, mais en même temps, c'est du vrai argent. Puis il y a quand même un soupir de soulagement, je pense qu'il faut quand même saluer.
On va le prendre.
C'est une bonne chose, puis on va le prendre. Il y a un 30 millions qui manque, qui n'a pas réapparu. Ouais. Donc, on demande un effort d'optimisation. Mais là, on s'attend du côté du gouvernement à ce qu'on ne coupe pas dans les services aux élèves. Mais toute cette instabilité qu'on a instaurée, puis il faut quand même le préciser, les profs sont déjà à bout.
Ah, ils sont complètement loadés, là.
Et ils vont... Encore une fois, là, je reçois des témoignages, puis même les profs de mes enfants, on le voit, là, souvent, ils achètent des choses eux-mêmes. J'ai une prof qui m'écrit hier, qui me dit, « Moi, mon chum, il vient réparer des affaires en cachette à l'école. Mmh. » Ça fait un an et demi que j'attendais qu'il vienne réparer ma bibliothèque, puis tous mes livres étaient en pile à terre. Nous, là, moi puis mon chum, on a acheté un tapis à la maternelle de mon enfant pour qu'il puisse s'asseoir par terre pour, tu sais, faire les petits moments de lecture.
Ouais, ouais.
Elle avait fait une demande, ça faisait un an pour avoir un tapis, pas de budget pour un tapis. Comment tu veux gagner contre ça? Là? On le voit bien qu'ils tirent.
Puis même au-delà du matériel, moi, j'en ai des enseignants aussi dans mon entourage, enseignants-enseignantes, puis c'est fou l'effort qu'ils mettent l'été, oui, en matériel pour rendre la classe le fun, puis rendre les activités le fun, puis, mais au-delà de ça, juste les ressources. Il y a de plus en plus de classes à problème au Québec, là, d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, des troubles de comportement pour mille et une raisons. Là.
Puis des enjeux de décrochage scolaire, notamment chez les jeunes garçons, on sait que c'est une problématique. Puis les jeunes garçons, une des manières de les raccrocher à l'école, c'est les activités parascolaires. Ouais. Donc, c'est pas du luxe, là, ces éléments-là, dans le réseau scolaire. Cela dit, moi, je pense qu'il y a toujours un effort d'optimisation à faire. C'est juste dans la manière dont ça s'est passé. C'était mauvais.
Mais en tout cas, comment ça marche prendre ces décisions-là? Parce que chaque fois qu'il y a des affaires de même qui sortent des nouvelles, on est tenu à se dire, voyons, c'est une colombe. Il n'y a personne qui s'est parlé. Il n'y a personne qui. Mais tu ne consultes pas le plancher des vaches avant de prendre une décision comme ça. Tu ne prends pas le temps de parler avec les gens pour qui c'est la réalité. T'es clairement pas au courant de ce qui se passe au day-to-day, là.
Il y a vraiment comme un conflit de perspectives en éducation. Du côté du ministère, du gouvernement, on a l'impression qu'il y aurait vraiment des économies à aller chercher. Puis du côté du réseau de l'éducation, tout le monde est à bout, il n'y a pas d'argent, on manque de tout. Puis j'ai l'impression que les deux peuvent être vrais en même temps parce que je pense que les processus sont pas optimaux. Puis le réseau scolaire, quand même, il faut se le dire, il y a des améliorations à poser. Tantôt, je vous disais...
La machine marche croche.
Bien, puis ça a toujours été un peu réputé, tu sais, quand moi, je travaillais au gouvernement, l'éducation, ça a toujours été un dossier difficile à manœuvrer, un réseau qui ne suit pas toujours, un ministère pas facile à manœuvrer aussi. Tu veux déployer une politique, puis ça ne se passe pas comme tu veux. Ça brasse beaucoup aussi, tu sais, c'est sûr, il y a les syndicats aussi. Donc, peu importe la décision que tu prends, c'est assez rare que tu te fais dire bravo, là. Puis c'est ça qui est poche un peu aussi pour le gouvernement, c'est que c'est vrai que la CAQ a fait des bonnes choses en éducation. Réinvesti après l'austérité libérale, beaucoup de rénovation d'écoles, construction de nouvelles écoles, ajout d'aide à la classe. Et là, avec cette espèce de déplorable séquence...
On vient brouiller le reste, là.
Ben, c'est comme si ça effaçait tout ce qui a été fait, tu sais.
Mettons que je vais être de mauvaise foi, là.
Sois-le, vas-y.
Mettons.
Les prochaines élections provinciales, je trouve que le timing est bon en ce moment pour dire, bon, là, on coupe. Dans un an... À quelques mois des élections, j'ai comme le feeling que là, on va annoncer des belles choses puis des beaux investissements en éducation, étrangement, à quelques mois de novembre 2026 puis des élections.
Je pourrais te traiter de cynique. Mais t'as raison. C'est comme ça que ça marche. À l'approche des élections, t'sais, souvent, on va prendre les décisions moins populaires le plus loin possible des élections. En même temps, quand on regarde un peu le budget qui a été déposé le printemps dernier, les déficits, on voit qu'économiquement, c'est pas facile. Les revenus sont à la baisse. On a une crise commerciale avec les États-Unis. Je pense pas que cette fois-ci, on va avoir des si belles nouvelles puis des bonbons à distribuer.
Pas de chèque de 500 piastres?
là, ce serait vraiment épouvantable. Puis d'ailleurs, tu sais, faisons encore le parallèle entre les coupures en éducation, je mets coupures entre guillemets, évidemment, puisque ça fait débat, et l'annonce d'hier sur le montant d'argent pour le troisième lien. C'est sûr que ça sonne faux en ce moment. Là. Les gens vont commencer à dire, ben là, les priorités sont pas nécessairement à la bonne place. Puis, t'sais, moi, je suis pas nécessairement contre l'idée d'un troisième lien. Je veux qu'on améliore la mobilité à Québec. Je veux qu'on réduise le trafic. Sauf que c'est sûr que le timing est épouvantable politiquement. Là. Puis moi, vous savez pas le nombre de personnes qui suivent pas la politique à tous les jours, qui m'en ont parlé des coupes en éducation. Puis souvent, la deuxième phrase qu'ils disaient, puis pendant ce temps-là, on s'en va, on avance, on continue de dépenser pour un troisième lien à 10 milliards.
Oui, totalement. Mais c'est parce que l'éducation nous touche pas mal plus de près, on s'entend, que le troisième lien. Là. Beaucoup de textos qui reviennent, Antonine. Est-ce que l'effort d'optimisation devrait peut-être pas commencer par être fait au ministère de l'Éducation avant de couper dans les services aux élèves directement? Il y a beaucoup de gens qui nous reviennent avec le fait que le gouvernement engage des personnes et des personnes et des personnes, mais après ça, on nous parle d'optimisation.
C'est vrai que les fonctionnaires, la fonction publique a gonflé dans les dernières années. Peut-être. Moi, je pense que l'effort d'optimisation, puis de toujours se demander, quand on a des deniers publics, là, que ça arrive des taxes des gens, là, on devrait toujours se demander est-ce que je mets vraiment chaque dollar au bon endroit. Puis ça vaut autant pour la fonction publique que pour le réseau de l'éducation.
Bien, je comprends les gens d'être fâchés parce que si on fait un parallèle un peu boiteux, là, quand on nous parlait d'économiser de l'énergie, là, puis d'éteindre nos lumières, puis de faire notre lave-vaisselle à 1h du matin, puis notre lavage, puis il y a beaucoup de gens qui disaient, ben oui, mais tu regardes les buildings quand tu te promènes le soir, les buildings gouvernementaux, puis toutes les lumières sont allumées. Puis tu me demandes de moi partir mon lave-vaisselle à 1h du matin.
Bien, c'est un peu ça. Quand on compare les deux, ça devient un peu difficile à défendre. Cela dit, pour moi, c'est pas un ou l'autre. T'sais, l'effort d'optimisation, on va devoir le faire. Puis c'est vrai qu'on, pour vrai, la bureaucratie a tendance toujours à grossir. Puis finalement, quand on se rend compte qu'il n'y a pas plus de services, il n'y a pas plus d'impact sur le terrain, il faut se poser la question.
Exact. Parlons de la loi C-5 pour les grandes infrastructures, question de donner plus de pouvoir au fédéral. C'est, la rencontre est-tu terminée, Max? C'est en ce moment?
Je pense qu'elle est encore en cours.
C'était toute la journée, donc avec les chefs des communautés autochtones. Il y a certaines personnes qui craignent que la loi impose des projets sans réelle co-gestion. Qu'est-ce que le gouvernement cherche avec tout ça? Mettons que tu nous fais un beau petit résumé, là.
Bien, premièrement, je veux juste dire que Mark Carney va finir la journée brûlé, ben raide, parce qu'il doit tellement être en train de se faire chauffer les oreilles.
Il est optimiste, hein, au début. Absolument.
Mais les Autochtones ne sont pas contents. Puis quand, là, je fais une généralisation, parce qu'évidemment, ce n'est pas un bloc monolithique. Il y a des intérêts différents, il y a des sentiments différents d'une communauté à l'autre. Mais globalement, l'ambiance n'est pas très bonne présentement avec les Autochtones, parce qu'il y a ce projet de loi C-5 passé à toute vitesse, sous bâillon, avec très peu de consultations. Et le premier ministre Carney essaie de dire aux Autochtones, on va vous écouter, on va vous consulter, même vous allez pouvoir bénéficier des projets, on va vous impliquer, on va faire de la co-gestion avec vous. Mais la manière dont ça s'est passé, vraiment, il y a comme un déficit de confiance qui s'est déjà installé. Et tout ça dans un contexte où il y a déjà une crise de confiance entre les communautés autochtones et le gouvernement fédéral depuis toujours. C'est pas pour rien qu'on parle de réconciliation depuis beaucoup d'années, c'est qu'il y a des blessures extrêmement profondes. Il n'y a pas de relation de confiance qui est très forte en ce moment.
C'est trop tôt un peu pour ce genre de loi-là? Ou...
Bien, en fait, tout ça est débattable parce que, en fait, il y a vraiment un momentum pour les grands projets en ce moment. Il y a comme des sondages qui ont démontré que les gens étaient plus ouverts aux grands projets, notamment exploitation, transport d'hydrocarbures, projets énergétiques aussi, crise commerciale avec les États-Unis. On a un premier ministre fédéral qui est en lune de miel aussi puis qui veut en profiter, battre le fer pendant qu'il est chaud. Il faut qu'on renforce notre économie, qu'on augmente notre indépendance face aux États-Unis, qu'on augmente le transport.
La liste est longue.
Le commerce interprovincial. Bref, on a beaucoup de travail à l'interne. M. Carney va aller très vite, mais il y a des obstacles sur son chemin.
Puis, mais moi, tu parles d'obstacles. Moi, j'ai été très surpris que les provinces soient pas tant un obstacle. Puis que même François Legault, qui normalement, on dirait, moi je me disais, hey, politiquement, le monde au Québec aime ça quand tu te coltailles un peu avec le fédéral. Puis là, même François Legault mangeait dans la main de Carney, alors que c'est une loi qui vient littéralement enlever du pouvoir au Québec pour le donner à Ottawa. Puis là, ça a passé, tout est beau. Fait que là, tant mieux s'il y a un peu d'opposition des communautés autochtones parce que les provinces ont dormi au gaz.
Bien, les provinces, pour l'instant, en fait, là, c'est qu'elles voient miroiter la possibilité que des projets importants pour elle soient des projets d'intérêt national au sens là, de la loi C-5.
Ça vire de même bien beau, mais laisse-moi en douter.
C'est ça. Mais il y a l'odeur de l'argent qui est là. Fait qu'il y a des projets que les provinces se disent « moi, je vais les passer là-dedans ». Fait que là, pour l'instant, on s'oppose pas, on veut collaborer, mais tout ça est assez fragile. Puis, tu sais, si on
comment le respect des droits autochtones là-dedans va prendre place? Moi, c'est vraiment ça que j'ai hâte de voir, là.
Bien, en plus, ça peut virer mal assez rapidement.
Okay? Oui.
Là, ça allait, depuis quelques années, ça allait relativement mieux. Il y a eu le blocus sur les chemins de fer en 2020, juste avant la pandémie, justement pour une histoire de projet qui passait sur une communauté, la communauté Wet'suwet'en, et ça a vraiment affecté énormément l'économie du pays. Donc, t'as pas besoin que toutes les communautés autochtones soient fâchées contre toi. Là. Ça en prend rien qu'une pour vraiment, des fois, là, causer des grosses problématiques pour le gouvernement fédéral. Et il y a toujours cette impression du côté des communautés autochtones de ne pas être entendues.
Ouais.
On vous consulte, mais c'est un peu cause toujours. Mm-hmm. Donc, ils veulent vraiment être des partenaires, mais ça se fait pas nécessairement.
Pour la belle image, on dirait. Là.
Ben, des fois, puis aussi, ça se fait pas en claquant des doigts. Des fois, le rythme très pressé du gouvernement ou d'un politicien va pas être nécessairement le même que la communauté autochtone. Tu sais, au Québec aussi, on a plein de projets sur la Côte-Nord là, qui s'en viennent. Il va falloir s'entendre avec les Innus, ça prend du temps. Donc, des fois, il peut avoir une incompatibilité avec, disons, la vitesse de croisière. Puis j'entendais des sources qui me disaient que les Autochtones, le message que certains ont passé à des entreprises qui veulent faire des grands projets ou au gouvernement, c'est bien, le niveau de vitesse à laquelle on va aller, ça va être le même niveau de la confiance entre nos nations. Disons que c'est assez clair que c'est comme nous, on n'est pas si pressé que ça, ouais. Donc vous allez prendre le temps de nous écouter, mais et on veut des bénéfices.
À l'inverse, est-ce que ça pourrait aider en quelque sorte si c'est bien fait la réconciliation ou pas en tout? Là?
Si oui, ça peut être un moteur de réconciliation parce que moi je pense que l'aspect économique est hyper important pour le développement des communautés autochtones. Et moi je suis plutôt optimiste dans le sens que je trouve que dans les dernières années, la boule de neige est comme repartie de l'autre côté de la montagne. C'est-à-dire que les blessures dont je parlais tantôt pour la réconciliation, bien, c'est beaucoup les pensionnats. Il faut quand même rappeler que, puis là, tu dis, c'est quoi le lien entre les pensionnats puis des projets de pipeline qui vont passer? Il y en a un, c'est que c'est une blessure qui est extrêmement profonde, qui a créé énormément de détresse dans toutes les communautés autochtones au Canada. Dans les dernières
une
années,
méfiance.
Énormément de méfiance envers le gouvernement, mais aussi, ça a brisé des gens. Donc, il y a toute une Il y a plusieurs générations autochtones qui ont été brisées par les pensionnats. Et là, tranquillement, on a des générations qui ne sont pas allées dans les pensionnats et dont les parents ne sont pas allés dans les pensionnats. Et il y a toute une nouvelle génération de leaders autochtones. Et on les voit un peu partout. Ils prennent plus de place dans les médias, dans plein de sphères de la société. Il y a des entreprises autochtones qui se développent. Et justement, ces grands projets-là, ça peut être l'occasion pour certaines entreprises autochtones d'en bénéficier aussi. Mais ça demeure un terrain qui est miné. Ce n'est pas facile. Puis quand M. Carney veut aller vite, bien, il risque de glisser, justement.
Les données de Statistique Canada, Antonine, sur les conflits de travail au Québec qui étaient fausses dans
les dernières nouvelles.
91 % des grèves sont au Québec, c'est ce qu'on disait. Puis le ministre du Travail, Jean Boulay, qui avait, à la suite de ça, abondamment utilisé ça à son compte pour mousser son projet de loi 89 qui a passé, en pensant qu'il a fini par être adopté. C'est dans à peu près 5 mois que ça entre en vigueur. Est-ce qu'il savait... Est-ce que le gouvernement savait peut-être que ces chiffres-là étaient exagérés? Est-ce que ça a pu être utilisé d'une façon ou d'une autre dans l'intention de pouvoir passer ce projet-là?
Bien, moi, je ne veux pas prêter des intentions, mais je pense que le projet de loi aurait pu passer même sans ces données impressionnantes-là, parce qu'il y a quand même une idée qu'il y en a beaucoup de grèves là, au Québec. Puis à chaque été, en plus, on pourrait faire la liste dans des moments vraiment cruciaux de notre économie puis du tourisme. On a des grèves de transport, des traversiers, la STM, la LRTC, ça
Parce que là, le but, en passant de la loi 89, c'est de limiter la durée des grèves, des lock-out au Québec et compagnie, là, si jamais. Là.
Oui, puis c'était d'un peu élargir la notion de service essentiel. Donc, pour éviter qu'il y ait des impacts démesurés sur certaines populations. Tu sais, par exemple, quand il y avait eu la grève dans les écoles, il y a des élèves, par exemple, les élèves autistes qui souffrent beaucoup des changements d'habitude puis de ne plus être à l'école. Bien, dans la nouvelle législation, on pourrait s'entendre entre les parties pour que ça, ce soit un service essentiel, etc., etc. Mais c'est dommage parce que je pense que ce projet de loi-là aurait pu passer quand même. Il y a des débats à avoir sur le droit du travail au Québec. Et là, maintenant qu'on apprend que les données sont erronées, bien, c'est comme si ça invalidait un peu tout l'argumentaire.
C'est ça, exact.
Alors que l'argumentaire avait quand même des éléments qui étaient bons.
Puis une chance que ce n'était pas des données du gouvernement du Québec.
Hey, là, on est
sauvé par le fait que c'était des données du fédéral, parce que sinon, les syndicats s'en seraient encore plus donnés à cœur joie. C'est quand même quelque chose d'inquiétant dans le fait que des données du fédéral qui sont justement utilisées après ça par le gouvernement provincial pour passer une loi soient à ce point erronées?
Écoute, il va falloir qu'on ait des explications, là, parce que les données du fédéral, on s'en sert pour plein
dans
de choses.
Tous les domaines.
Et notamment pour planifier des politiques au Québec.
On en parle tous les jours de données puis de sondages, là.
Donc, il va falloir qu'ils s'expliquent, là, puis qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé, puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus. Là, c'est pas la fin du monde, dans le sens que, tu sais, c'est un projet de loi sur les grèves, tu sais, c'est pas... je veux dire, il y a personne qui est décédé, là, à la suite de ça, en tout cas, pas à ma connaissance, et si oui, je m'excuse d'avance, mais il y a des statistiques qui pourraient mener à des situations, si elles étaient erronées, à des situations qui pourraient être plus dramatiques. Mais tu sais, du côté du fédéral, puis Statistique Canada, ça peut être quand même un peu à part, là. Mais moi, j'ai travaillé à l'immigration, notamment, qui est un dossier avec lequel on travaille beaucoup avec le fédéral. J'étais du côté du Québec. C'était tellement compliqué d'avoir des données, là. C'était tout le temps en retard. Il y avait une grande inefficacité. Puis en immigration, pour faire la planification, on a besoin de données. Souvent, il y avait des débats aussi. On n'était pas d'accord avec les données qui nous étaient transmises.
Mais pourquoi c'est compliqué de même, hein?
Bien, il y a un problème, notamment dans la machine fédérale. Puis je pense que dans toutes les machines administratives, des fois, le problème peut être là. Mais il y a une inefficacité dans l'appareil administratif fédéral. Puis d'ailleurs, M. Carney a nommé Michael Sabia comme le chef des fonctionnaires à Ottawa, avec la mission aussi de faire un ménage et d'améliorer les processus, parce que c'est d'une grande inefficacité. Je reviens à l'immigration juste pour vous donner un exemple. Quand on est tombé en pandémie en 2020, tout le ministère de l'immigration au Québec s'est mis en mode télétravail. Ça a été un grand défi de numérisation pour certaines choses, mais ça s'est relativement bien passé puis c'est devenu fonctionnel assez vite. Du côté d'Ottawa, tous les dossiers étaient papier. Donc, les fonctionnaires renvoyés à la maison, rien pour travailler.
Un bordel.
Un bordel le plus complet. Tout est mis sur pause. Est-ce que ça vous donne une idée à quel point... Puis ça, c'est
tout
un ministère,
retardé,
je donne un exemple,
hein?
Mais de l'inefficacité. Puis c'est le ministère de l'Immigration, Immigration Canada, ça revient souvent comme un exemple de ministère où c'est vraiment inefficace, puis qu'il y a des délais, puis que les ministres n'arrivent pas un peu à faire le ménage quand ils passent par ce ministère-là, mais il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait donner. Puis la machine fédérale, passeport, pour rappeler de la crise des passeports.
Et mon doux Max,
ben, moi, ça avait été surtout, en fait, à cause de la Poste.
Oui, c'est vrai.
Moi, c'était
qu'à
Poste Canada.
C'était mon autre point après que je voulais, dont je voulais parler,
là,
de la Poste.
À avoir mon passeport, ça a été un shit show, mais oui, il y a la grève de Poste, ça, on le comprend. Mais là, de retourner là, puis là, finalement, ouais, ben, t'étais supposé l'avoir eu, OK, finalement, ton passeport est perdu, reviens nous
la
voir.
La maison des fous.
On va t'en refaire un express d'ici. Fait que, tu sais, oui, la Poste, je comprends, je pouvais pas recevoir mon passeport, mais entre-temps, ils ont quand même eu le temps de perdre mon passeport quelque part.
Tu sais, je m'excuse, là, mais on est un pays du G7. Là. On devrait être capable de délivrer des passeports aux
j'allais
citoyens.
J'allais dire,
là.
Des fois, j'arrive à comprendre les gens qui sont irrités.
Non, c'est une irritation est compréhensible. Les trains. Moi, je prends le train à chaque semaine. C'est une grande inefficacité. Ça fait des années qu'on en parle. Il n'y a rien qui change. Oui. Ça ne devient pas plus efficace.
Non.
Ça coûte une fortune.
On va avoir un TGV un jour.
Un jour. Si on le voit de notre vivant, Max.
Ben moi, je garde espoir parce que l'espoir est nécessaire. La gestion des frontières aussi. Mm. On perd des dossiers, on perd la trace. On avait vu récemment qu'il y avait des gens qui faisaient l'objet de pardons, notamment dans leur dossier d'immigration. Et là, quand on posait la question à la machine fédérale, OK, c'est quoi les crimes? Oh, on ne le sait pas. C'est
oh mon
comme...
Dieu, la base!
Non, mais c'est ça. Tu sais, il y a comme une impression des fois de vraiment de désordre et d'inefficacité.
Fait que, bon, ça, c'est, de communication.
Ça, c'est un autre défi d'ailleurs du premier ministre du Canada qui veut aller vite. La machine, est-ce qu'elle va suivre?
Ouais.
Est-ce qu'elle est capable de suivre? Ça aussi, c'est un autre obstacle sur sa route.
Eh mon Dieu Seigneur, on aura l'occasion d'en jaser assurément. T'as-tu encore un peu de temps?
Oui.
Oui, on fait ça vite. J'ai envie qu'on parle des no-shows. Je sais, Max, que tu as sorti des extraits parce que les restaurateurs peuvent facturer une pénalité de 10 $ aux absents à partir d'aujourd'hui. Puis, sans avoir tous les détails, je me souviens quand on avait commencé à parler de ça, moi, 10 $ je trouvais que c'était vraiment peu, pour être bien honnête, là, parce que tu as des petits restaurants locaux qui n'ont vraiment pas beaucoup de place, qui, je veux dire, t'annules une table, tu viens te foutre leur soirée en l'air. Là. Pour moi, je chargerais l'équivalent, mettons, le repas moyen. Je n'irais pas mal à plus que 10 $ Puis je sais, Max, que tu as les détails par rapport à ça.
Oui, en effet. Donc, 10 $ tu l'as dit, par personne. Mais il y a plusieurs critères à respecter. Et nos collègues du 99.5 Montréal ont fait un beau dossier sur le sujet. Puis ont parlé notamment à Mathieu Lévesque, qui est député de Chapleau, adjoint gouvernemental du ministre de la Justice. Et lui, j'ai un extrait où il vous présente les critères à respecter pour charger ce fameux no-show-là. Vous allez voir, dès le début, déjà assez compliqué.
Les restaurateurs vont pouvoir imposer une pénalité allant bon, de maximale de 10 $ par personne. Puis là, justement, faut qu'il rencontre ces conditions-là. D'abord, que le restaurateur doit informer le client que des frais pourraient s'appliquer s'il ne respecte pas sa réservation. Donc, le client doit savoir qu'il pourrait y avoir des frais. Faut que la réservation concerne un groupe d'au moins deux personnes et plus. Donc, une personne seule qui aurait réservé au bar ne serait pas affectée par cette réglementation-là. Aussi, le restaurateur va devoir communiquer avec le client pour confirmer la réservation dans un délai de 6 à 48 heures avant l'heure prévue. Et finalement, le client doit pouvoir annuler sa réservation facilement et en tout temps. Donc, il doit pouvoir le faire en texte, par texto, en ligne ou par un autre moyen là, technologique, tant que c'est fait par écrit. Et donc, les frais ne peuvent pas non plus être imposés là, au client s'il annule la réservation au moins 3 heures avant.
Simon, c'est vraiment trop compliqué.
Je pense que ça a l'air compliqué, mais vous avez réservé récemment dans un restaurant, c'est beaucoup les textos, là?
Oui. Oui, puis ça va quand même, ça va quand même
super bien.
C'est
déjà un peu comme ça.
Mais tu sais, moi, mettons que je pense que ce qui m'énerve là-dedans, là, c'est de me dire, on n'est pas obligé de nous prendre par la main, c'est ma responsabilité. Là. Je réserve pour 4 amis au restaurant, c'est moi qui vais aller manger au resto. C'est ma responsabilité de l'écrire à mon calendrier, puis si j'y vais pas, ben je vis avec les conséquences. Là.
Ouais, mais en même temps, mettons, j'essaie de penser au processus. Là. OK. Moi, je réserve, par exemple, en ligne. Là, je reçois un texto qui me dit « Votre réservation est acceptée tout à l'heure, tel nombre de personnes, c'est cool. » Après ça, souvent, je reçois un rappel. Mm-hmm. Puis des fois, deux. Puis souvent, il faut dire oui ou non à la réservation. Fait que j'ai l'impression que ça va quand même bien s'intégrer là-dedans.
Normalement, oui. Une des difficultés, c'est justement, par contre, que les restaurateurs font affaire avec des plateformes
Libro et compagnie.
Qui sont des intermédiaires.
Exactement. Puis Isabelle Perron de Cube Radio, 99.5 Montréal, qui a discuté avec Ariane Robitaille, qui est propriétaire du Tequila Lounge ici à Québec, puis elle en parle de ces difficultés d'application-là.
On parle de cette loi-là depuis le printemps, mais en réalité, les indications y arrivent à l'instant. Donc, pour l'appliquer à partir de en fin de semaine, ça sera pas possible. Il y a aussi l'aspect de notre système de réservation. Évidemment, on travaille avec un système de réservation là, qui est pas fait par nous. Donc, il va falloir également communiquer, puis s'assurer que ça soit bien appliqué dans le système de réservation. Puis, par la suite, ben comptabiliser. Évidemment, ça va. J'imagine que notre système de réservation pourra nous aider, mais il y a aussi cette partie-là où est-ce que moi je devrais le comptabiliser et est-ce que il va avoir les taxes à sortir, le mettre dans notre bilan trimestriel. Il y a beaucoup beaucoup de gestion.
Et qu'en bout de ligne, la question qui a été posée aussi par Isabelle Perron, c'est est-ce que ça vaut la peine?
Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour 10$? Je ne suis pas certaine. De toute manière, je suis persuadée que ce 10$-là rentre dans une perte. Là, parce que de toute manière, un prix par tête, exemple, dans mon établissement, on parle d'environ 50$. Et s'il n'y arrive pas 3 heures à l'avance, on sera probablement pas capable de faire entrer d'autres clients. Puis ce 10$-là, ben on n'arrivera pas à le combler. Puis on arrivera encore loin du 50$ par tête qu'on fera pas. Là. Je crois que c'est un pas vers quelque chose de positif, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail là, de la part du gouvernement. Là. Je sais que l'Association des restaurateurs nous aide beaucoup, puis souhaitait déjà un montant beaucoup plus grand pour s'assurer que les gens continuent de réserver et arrivent à leur réservation. Mais je pense que c'est beaucoup plus de gestion que autre chose. Bénéfice.
Tu sais, on dirait que moi, je demanderais effectivement lors des réservations ce qu'on me le dise. Là. Sache que ça va te coûter 10, 20, 30, 40, m'en fous, dollars si t'annules. Puis après ça, moi, dans ma tête, c'est ma responsabilité. Il y a un autre texto qui est entré qui est complètement à l'inverse. Il dit « Je travaille sur l'asphalte, je me fais pas payer des frais quand je suis cancellée le matin à cause de la pluie. Moi aussi, ça fait que ma journée, maison, enfant, véhicule. Au Québec, on prend tout le monde par la main, sauf les bonnes personnes. »
Ouais, mais il était temps quand même qu'on envoie un message aux gens. Parce que je pense que les gens comprennent pas qu'est-ce que ça implique pour les restaurants de penser que tu vas avoir tant de personnes dans ton restaurant le soir. Tu sais, c'est de la bouffe, là.
Oui.
Tu sais, il y a des pertes là, qui sont liées à ça. On en a vu des histoires dans les dernières années de restos qui se faisaient même pas appeler pour annuler des groupes de 12 personnes juste avant Noël. Tu sais, il y avait un message à envoyer à la population. Puis tu sais, moi, mettons que je réserve, puis qu'on me dit, en passant, si vous annulez pas 3 heures au moins avant, vous allez avoir des frais qui vont être chargés sur votre carte de crédit. Bien, peut-être qu'on prend les gens par la main, oui, mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'être pris par la main.
Mais ça conscientise.
C'est ça. Ça envoie un message. Par contre, c'est vrai que je suis très, très sensible à l'argument de dire que le montant versus le tracas administratif et la gestion que ça va amener, honnêtement, il y a comme un disconnect.
Pour moi, le gouvernement aurait juste pu dire « Hey, vous avez le droit à cette heure de charger un montant, mais il faut que ce soit clair au moment de la réservation. » Parce qu'en effet, le 10$, là...
Non, mais puis c'est pas juste ça.
C'est en bas de 20$ de nos jours.
Ben, voyons. Franchement, 10$, aujourd'hui, j'ai de la misère à m'acheter deux bonbons. Là,
t'sais. Pas s'acheter un trio au McDo.
Ben là, c'est carrément ça.
Puis, Audrey, si tu veux passer au dernier extrait qu'on a, il y en a peut-être qui pensent, ouais, mais ça doit pas être beaucoup, t'sais, des no-shows. Oui, des fois, on entend des histoires. Regardez au Tequila Lounge, Ariane Robitaille qui parle du nombre de no-shows.
Ben, en fait, là, par année, là, nous, on est à 33%. Fait que c'est quand même énorme. Au bout de l'année, c'est des grandes, grandes pertes. Évidemment, dans un quartier à Québec comme le nôtre, qui est Saint-Roch, heureusement, on a des walk-ins, donc des gens qui arrivent sans réservation, qui peuvent venir combler, mais c'est pas... c'est surtout là, tu sais, dans les périodes plus grandes, là, où est-ce qu'exemple, pendant les périodes des fêtes, où est-ce qu'il y a des groupes qui se présentent pas, ou dans les grosses soirées, où est-ce qu'on attend des groupes de 10, de 11 et même plus, ou qu'ils n'y arrivent pas, puis c'est ça qui fait mal.
C'est énorme,
33, c'est une réservation sur trois.
C'est beaucoup, là.
Donc, je m'excuse, on a besoin de prendre les gens par la main. Désolée.
C'est plate, là, mais...
Moi, j'irais vraiment au prorata de ce que ton restaurant vaut. C'est-à-dire que dans ma tête, tu peux pas charger la même chose. Puis là, c'est pas réducteur, là, mais dans un restaurant, mettons, un peu plus familial que dans un restaurant haut de gamme, là, je veux dire, les prix, les revenus qui vont revenir au restaurant que tu perds quand les gens se présentent pas, c'est beaucoup plus élevé, me semble.
Il me semble qu'effectivement, c'est beaucoup plus élevé. Puis il faut aussi rappeler que c'est pas facile d'être restaurateur, là. Moi, mes parents étaient restaurateurs. C'est pas des énormes marges de profit. C'est des gens qui travaillent extrêmement fort, qui ont déjà, tu sais, avec la pandémie dans les dernières années, avec l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre, tu sais, les restaurateurs l'ont pas eu facile. C'est pour ça aussi que, ben, peut-être qu'on peut trouver que c'est plate un petit peu d'avoir des frais quand on annule pas, là, mais honnêtement, c'est pas grand-chose à comparer des désagréments que ça cause chez les restaurateurs.
Je pense que c'est. Il y a un texto qui vient d'entrer qui m'a comme un peu mis le feu derrière, là. Il y a quelqu'un qui dit on appelle ça les risques du métier. Juste une bouteille de vin au resto, ça nous charge trois fois le prix de la bouteille, vous me ferez pas brailler.
Il y a à payer plus cher, eux aussi, en passant la bouteille.
Oui, il y a ça, mais moi, c'est même pas ce principe-là. Je pense qu'à la base du débat d'on charge-tu, on charge pas, pour moi, c'est une question de civisme.
De respect de base.
De respect. Tu te présentes pas, t'appelles. J'étais allée au resto avant-hier. On était 15 minutes en retard sur l'horaire. Hey, j'ai appelé. On va se présenter.
Oui.
Inquiète-toi pas. On est juste là en 15 minutes. Est-ce que c'est correct? Hey, il n'y a pas de problème, madame. Parfait, on se voit tantôt.
Mais c'est juste de se mettre à la place des autres.
Oui,
des
ça
fois.
Te demande quoi? Je trouve tellement que c'est simple. Ça me fait capoter, ce genre de débat-là. C'est la base.
Ben, que ce soit... Malheureusement, il faut revenir à la base, visiblement.
C'est restaurant. 33%. C'est beaucoup, Antonine.
C'est énorme.
C'est vraiment beaucoup. Antonine Iaccarini, analyste politique. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste.
À bientôt.
Un Salut. Gros merci. Dans les prochaines minutes, c'est Paul Lévesque qui s'en vient. Paul qui est spécialiste du comportement humain. On va jaser de gérer la rupture amoureuse, tout ce qui est émotion, là, puis comment gérer les émotions des autres aussi. Vous avez des histoires, des questions, 88 971 1021. On joint ici, voici You Shook Me All Night Long à Boulevard 101.